Amen. Merci à l'équipe de Louange qui nous a conduits dans ce moment. Bienvenue encore à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints dans ces premiers instants. Soyez les bienvenus. On va accueillir la parole de Dieu maintenant. C'est Raphaël qui va apporter la parole. Tu peux me rejoindre. Raphaël, je ne le présente plus. Il fait partie de l'équipe pastorale avec son épouse Claudia. Et puis, je vais encore simplement prier afin que le Saint-Esprit puisse le conduire. Et vraiment parler à nos cœurs au travers de sa bouche, et puis que nos cœurs puissent aussi être réceptifs à ce que l'Esprit veut dire aujourd'hui. Père, merci encore pour Raphaël, merci pour le cadeau qu'il est pour l'Église, merci de le remplir de ta présence surnaturelle maintenant, de le oindre pour que ta parole soit pleinement dans sa bouche, qu'il puisse être libre de partager ce qu'il a reçu de ta part. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous. Nous avons dit que tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, que nous puissions les recevoir ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci beaucoup. Est-ce que c'est possible de mettre mon slide? Merci. Alors, je vous salue aussi tous. Au nom de notre Seigneur Jésus, c'est pour moi une joie d'être avec vous, de vous apporter la parole. Alors, aujourd'hui, nous allons parler encore du Saint-Esprit. Et vous voyez, Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit du Christ, ça nous montre que le Saint-Esprit, c'est une richesse. Et c'est sur ça que je vais parler. Sur la richesse du Saint-Esprit. Alors ici, c'est le texte de Romains 8, les versets 1 à 17. Je ne vais pas vous le lire, c'est un peu petit, mais je le mets seulement pour que vous puissiez voir combien de fois Esprit est annoncé dans ce passage. Oui, le Saint-Esprit est mentionné plusieurs fois dans ce chapitre. Et ce huitième chapitre de Romains mériterait d'être appelé le chapitre de l'Esprit. En effet, jusqu'ici, le Saint-Esprit avait été mentionné seulement une fois au chapitre 5. Or, il est cité 19 fois dans ce chapitre. C'est donc pour nous une occasion pour mieux connaître la personne de Dieu, l'Esprit. Une occasion pour nous focaliser davantage sur cette personne de la Trinité. Nous focaliser davantage sur qui il est. Mais si on parle de Trinité, je voudrais faire une petite parenthèse. Je pense que c'est nécessaire avant de reprendre le thème d'aujourd'hui. Alors, le terme Trinitas, Triunitas, est forgé en latin par Tertullien. Mais il a fallu environ 200 ans d'attente avant que ce théologien de Carthage, donc du nord d'Afrique, un des pères de l'Église, introduit la notion de Trinité. Aujourd'hui, par contre, même Wikipédia nous donne la définition correcte de la Trinité. En effet, nous lisons, dans le christianisme, la Trinité ou Sainte Trinité est le Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux, participant d'une même essence divine, et pourtant fondamentalement distincte. Oui, même les dictionnaires nous rappellent que la Trinité est le Dieu unique en trois personnes. Pourtant, dans l'imaginaire des peintres et des sculpteurs du passé, on voit facilement le Saint-Esprit comme une colombe, comme le vent, comme le feu, comme l'huile de l'onction. Cela n'est pas faux en soi, mais la Trinité n'est pas composée de deux personnes et autre chose, mais bel et bien de trois personnes. Pourquoi donc cette difficulté à montrer le Saint-Esprit pour ce qu'il est? Alors, à mon avis personnel, cela nous montre un des aspects du caractère du Saint-Esprit. Depuis toujours, le Saint-Esprit s'est montré très discret. Très discret, car dans la Bible, on ne trouve pas de manifestations visibles de théophanie de la personne du Saint-Esprit. Très discret, car il est envoyé par le Père et par le Fils, et ne fait rien de son propre chef. Très discret, car son rôle est de révéler Jésus et son œuvre à la croix. Très discret, car il est celui qui offre les outils aux croyants que nous sommes pour vivre une vie qui glorifie Dieu le Père. Alors, personnellement, je suis fasciné par le contraste entre le caractère très discret du Saint-Esprit et les manifestations puissantes de son action, l'aspect très éclatant de son agir. C'est lui qui génère la repentance et la nouvelle naissance. C'est lui qui est à l'origine des dons et des manifestations de l'Esprit et de tous les ministères. Nous avons écouté Jean-Jacques, il nous a parlé longuement de tout cela pendant la série sur le Saint-Esprit. Mais rappelons-nous donc que le Saint-Esprit n'est pas uniquement une essence, une force, une puissance. Le Saint-Esprit est une personne à part entière du Dieu unique et trinitaire. Alors fermons donc cette parenthèse sur le caractère du Saint-Esprit et revenons à la lettre de Paul aux Romains. Au chapitre précédent, le chapitre 7, Paul décrit la tension entre l'ancienne et la nouvelle nature. Je lis Romains 7, le verset 23 à 24. « Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. » Et l'apôtre continue, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais voilà qu'au chapitre 8, Paul nous assure qu'il existe une personne qui nous aide à vaincre le péché et vivre dans la victoire et dans l'espérance. Approchons-nous donc de ces différentes bénédictions qui nous sont accordées par la présence de la personne du Saint-Esprit dans notre vie. Au verset 2, il est appelé l'Esprit de vie. Vous voyez, comme Jésus disait, je suis le pain, je suis... Mais l'Esprit aussi, il a des caractéristiques, il a des noms. Et là, il est dit, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, si l'Esprit de Dieu habite en moi, je suis affranchi de la tyrannie de la mort. C'est l'Esprit de Dieu, comme je viens de dire, qui crée la vie et la communique aux croyants. Par contre, la loi du péché, c'est la puissance que le péché exerce sur celui qui est son esclave. Alors, il faut dire que généralement, le mot « loi », « nomos » en grec, désigne dans la Bible la loi juive, la loi que Dieu a donnée à Moïse pour qu'il la transmette aux Juifs. Mais Paul, dans sa lettre aux Romains, nous parle de six sortes de lois différentes. Donc ici, ce nomos, cette loi, a une portée plus large et signifie principe de vie ou règle de vie. Donc, avant que le Saint-Esprit vienne en nous, le principe qui y régnait était la loi ou la règle du péché et de la mort. Et finalement, quand l'Esprit Saint est entré en nous, la loi du péché et de la mort a été remplacée par la loi, la règle de l'esprit de vie. Donc nous sommes affranchis de la loi du péché et de la mort par l'œuvre de Jésus-Christ, comme il nous est dit dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Mais cette liberté devient concrète dans la vie du croyant par la présence de la personne du Saint-Esprit que Jésus a envoyée lors de son retour auprès du Père. Le Saint-Esprit, on dit pneuma en grec, est l'esprit de vie, le principe vital par lequel le corps est animé. Mais il est plus que cela, car sans Dieu, quoique vivant, je suis spirituellement mort, à cause du péché qui est en moi. C'est le souffle de Dieu, le Saint-Esprit, qui réveille mon esprit par la puissance de la résurrection. Nous vivons ici et maintenant une résurrection spirituelle avant de la résurrection corporelle à la fin des temps. L'esprit, c'est aussi l'esprit de paix. Et nous le lisons versets 5 et 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors, le mot grec utilisé pour affection dans ce texte, pronéo, désigne une orientation, un mouvement. Signifie se diriger vers, aspirer à, tendre vers quelque chose. Il y a une autre traduction qui dit, au verset 6, « Car la nature humaine pécheresse tend à la mort, mais l'esprit tend à la vie et à la paix. » Donc, si nos péchés se dirigent vers les choses de ce monde, alors nous aurons les mauvais désirs, l'envie de richesse, l'orgueil, la jalousie. Mais si notre esprit est contrôlé par ces désirs pécheurs, alors nous courons vers la mort. Et même nous sommes déjà morts. En revanche, celui qui a les tendances de l'Esprit de Dieu, il goûte à la vie et à la paix. En Galates 6, nous lisons « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. S'il sème ce qui plaît à sa propre nature, à la chair, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternel. Alors, il est vrai, la présence du Saint-Esprit ne signifie pas disparition totale du péché. Mais le péché ne tombe jamais sur notre tête sans que nous n'y puissions rien. Même les Chinois l'ont compris et ils ont fait ce proverbe qu'on connaît bien. Les oiseaux peuvent passer sur notre tête, mais nous pouvons les empêcher de faire un nid. Nous restons complètement responsable de la direction de nos pensées et des choses sur lesquelles nous mettons notre affection. Si nous marchons derrière notre Seigneur Jésus, si nous mettons nos pieds dans ses pas, sur les traces du Christ, alors l'Esprit Saint nous communique sa propre pensée. Alors on pourrait se demander, qu'est-ce qui pourrait nous aider pour y parvenir ? Eh bien, avant tout, comme Jésus dit en Matthieu 5,30, nous devons écarter tout ce qui constitue une tentation. Jésus dit, si c'est à cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un seul membre de ton corps que d'aller tout entier en enfer. Jésus nous dit non pas de couper réellement notre main, mais de savoir gérer notre main, n'est-ce pas ? Ensuite, positivement, nous devons fixer notre attention sur les réalités célestes, ainsi que sur tout ce qui est saint, recommandable en ce monde. Comme nous dit la parole en Colossiens 3:1, recherchez les choses qui sont au ciel. En Philippiens 4:8, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Alors, il est vrai que l'époque et la société dans laquelle nous vivons nous obligent de plus en plus fréquemment de faire des choix entre le bien et le mal. Ce choix est aussi de plus en plus difficile, car le mal est tellement banalisé et montré comme inoffensif. Tout devient relatif dans notre société. Pourtant, je nous encourage à ne pas être dans l'orgueil et vouloir choisir nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, comme le firent jadis nos ancêtres au Jardin d'Éden. Nous avons besoin du discernement qui vient du Saint-Esprit, qui est le seul et unique connaisseur du bien et du mal, car il sonde la pensée de Dieu. C'est ainsi que le Saint-Esprit nous communique la paix au milieu de ce brouhaha de ce monde. Dans notre texte, au verset 11, nous trouvons aussi l'esprit de résurrection. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors même si dans ce monde notre destinée ultime sera la mort, la puissance de l'esprit est telle que même la mort ne pourra pas nous retenir, de même qu'elle n'a pas pu retenir notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai, on le dit encore une fois, nous venons de vivre des moments forts autour de Pâques. Et comme au culte en commun à la Marive, nous pouvons encore aujourd'hui crier « Jésus est ressuscité ». Ça, c'est bien, ça me plaît. Or, la nouvelle vie de résurrection n'est pas donnée à une âme, à un esprit ou à un fantôme, mais à un corps mortel, à des corps physiques. En effet, en 1 Corinthiens 15, 44, il est dit « Quand il est mis en terre, c'est un corps matériel. Quand il ressuscitera, ce sera un corps animé par l'esprit. » Il y a un corps matériel, il y a donc aussi un corps animé par l'esprit. Mais Cette promesse est pour ceux en qui l'Esprit Saint a fait sa demeure, ce qui implique une relation suivie, une communion établie, et non quelques expériences ponctuelles ou superficielles. Oui, ça me vient encore à l'esprit ce que Camille a dit. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Est-ce que c'est pour vivre une émotion ou est-ce que c'est pour bâtir notre vie sur Dieu et sur son amour? Alors donc, de même que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts, il nous ressuscitera également à la fin du monde pour que nous vivions éternellement avec lui. C'est la promesse pour tout notre être entier. Donc il y a une vie qui conduit à la mort et il y a une mort qui conduit à la vie. En effet, en Romains 6, 8, il est dit « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » La résurrection est pour ceux qui acceptent de mourir avec Christ, ceux qui s'abandonnent entièrement à la volonté de Dieu le Père et sont conduits par le Saint-Esprit. Nous arrivons au verset 15. L'Esprit, c'est aussi l'Esprit d'adoption. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc l'Esprit Saint est l'esprit d'adoption. Il ne fait pas de nous des esclaves. Il nous libère pour que nous devenions des enfants du roi, des enfants légitimes de Dieu. Or, il y en a qui pensent que Dieu est le Père de tous les hommes. C'est complètement faux. Dieu est le Créateur de tous les hommes, mais il est le Père uniquement de ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint. En effet, Romains 8, 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Là aussi, on pourrait se demander, comment puis-je savoir si l'Esprit de Dieu habite en moi? Les Juifs pieux ou les musulmans pieux, ils placent leur assurance dans l'observance des rites, dans l'observance de la loi. Mais ils gardent au fond d'eux la crainte, car ils ne savent jamais si leur fidélité a été suffisante pour qu'ils soient agréés par Dieu. Mes amis, si nous vivons dans les œuvres de la loi, dans les rites et dans la peur de ne pas être assez ou ne pas faire assez, nous devons nous rappeler que le Saint-Esprit nous libère de tout cela pour que nous devenions des enfants de Dieu. Il est l'Esprit d'adoption. C'est par lui que nous pouvons appeler Dieu Abba, c'est-à-dire Père. Certains ont la terreur de leur Père terrestre. Certains d'autres... Ah, je mets une belle image. Non. Attends. Je me suis perdu un peu, mais je reviens. Alors, oui, je reprends. Certains ont la terreur de leur Père terrestre. Certains d'autres, ils n'ont aucune relation avec leur Père. Mais Dieu est le Père parfait, qui aime et désire avoir une relation étroite avec ses enfants, une relation d'amour. Dieu est le Père qui a livré à la mort la chose la plus précieuse qu'il possédait, son Fils unique, bien-aimé. Cela afin que multitude d'autres deviennent ses enfants par l'esprit d'adoption. Alors certains avanceront leur certificat de baptême, d'autres peut-être avanceront leur parler en langue. Mais moi, je vous encourage à vous appuyer sur les promesses de Dieu et l'œuvre parfaite du Saint-Esprit. Alors, nous arrivons à la fin de notre texte. Avec l'esprit d'authentification. Il est là. J'étais allé trop loin. L'esprit d'authentification, les versets 16 et 17, où il est dit « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'assurance que nous sommes effectivement enfants de Dieu. Alors, quand j'étais au Tchad, j'allais chez le notaire pour que les copies de nos documents soient authentifiées et deviennent des copies conformes. Le notaire pouvait témoigner que j'étais en possession de l'original. Un document authentifié par le notaire a la même valeur que l'original. Or, nous savons que l'original, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et l'Esprit Saint, c'est notre avocat, notre paraclet, comme l'appelle Jésus en Jean 14, 16. Si donc l'Esprit de Dieu témoigne que nous sommes enfants de Dieu, alors nous sommes aussi frères, héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. Méditons donc. Oh là là. La route que nous sommes appelés à suivre est la même que Jésus a suivie. La souffrance et après la gloire. Voilà ce que signifie être conduit par l'Esprit de Dieu. Nous n'avons plus besoin de crier le cri de Romains 7, 24, « Malheureux que je suis !» Mais enfin, nous crions « Abba Père !» Cette fois, c'est la bonne manière. Hein. « Abba Père !» est un cri de joie, de reconnaissance, de persévérance, de délivrance, d'obéissance et de victoire. L'œuvre de Jésus à la croix a ouvert le chemin vers notre Père aimant. L'œuvre de l'Esprit Saint est de nous faire vivre cette réalité ici et maintenant jusqu'à la fin des temps. La loi de l'Esprit est et la loi du péché s'opposent toujours en nous. Mais maintenant, j'ai un puissant allié qui me libère de l'obligation de suivre mes tendances vers le mal. Celles-ci sont toujours présentes, mais je ne suis plus forcé de m'y soumettre, je ne suis plus esclave du péché. J'ai été libéré. Donc, si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous avons des nouvelles tendances. Voilà, ça c'est une avenue de Paris. Au lieu d'avoir une seule et grande avenue, celle du péché, ça n'a rien à voir avec Paris, nous sommes élevés par la présence et la puissance de l'Esprit. L'Esprit nous fait monter et finalement nous apercevons la présence d'autres chemins, d'autres routes. la possibilité de suivre une voie autre que celle du péché. Elle n'est plus dictée de l'extérieur, la loi de la chair. Ce chemin, c'est la voie du Saint-Esprit en nous, qui non seulement nous invite à accomplir la volonté de Dieu, mais il nous donne aussi la force et la capacité de le faire. Alors nous ne faisons plus le bien parce que nous craignons d'être punis ou pour obtenir une récompense, mais parce que nous sommes maintenant conduits par l'Esprit de Christ. Alors, avant d'arriver à ma conclusion, je voudrais vous offrir un bonus. J'ai déjà fait autrefois les bonus. Ça me plaît, les bonus. Alors, le bonus que je vais vous offrir, c'est sur le mot grec, sur Saint-Esprit, le mot pneuma. Il est utilisé dans ce chapitre pour désigner le Saint-Esprit. Ce mot a donné origine à plusieurs mots français, mais je vous en présente juste un. D'abord, il y a le bateau pneumatique. Et donc, pneumatique vient de pneuma, d'accord? Donc, c'est ce bateau, s'il n'est pas rempli, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Il faut qu'il soit bien rempli pour offrir sécurité et pouvoir l'utiliser. Cela doit nous enseigner aussi à nous. C'est seulement étant rempli pleinement du Saint-Esprit que nous sommes complètes et utiles pour notre Dieu. Dieu peut nous utiliser comme cette personne peut utiliser son bateau pneumatique. Il y a un autre système d'utiliser le pneumatique, c'est le courrier pneumatique. Donc, il était utilisé au 19e siècle en France. Il était utilisé pour le courrier urgent. Hein? En bas de Paris, il y a encore. Et vous allez voir un petit vidéo. Il n'y a pas la volume.
J'envoie un pneumatique, reconnais que j'ai.
Je vous dois.
Le monsieur envoie un télégramme urgent.
Dans combien de temps arrivera-t-il environ ?
Une heure.
Cette lettre, nous allons maintenant la suivre tout au long des 15 km de parcours qui vont l'amener à la poste de la rue Claire.
Un marteau et un coup.
Hein. 17h45, le message arrive.
Bon, c'est bon.
Un quart d'heure plus tard, le petit télégraphiste déposera le connexion.
Voilà. Alors, mais vous savez, c'est encore utilisé pour certaines choses. Hein. Tous ces tuyaux en bas de Paris, c'est impressionnant. Hein. Donc, cette image nous montre aussi une des tâches de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. C'est lui qui met en place une communication haute débit entre nous et notre Père, bien plus vite que ce télégramme qui a pris une heure pour faire 15 kilomètres. Avec le Saint-Esprit, nous avons une communication immédiate. C'est pour cela, pour que nous soyons toujours en écation avec la volonté de Dieu. Et nous devons toujours être en communication avec Dieu pour qu'il puisse toujours nous diriger. Alors, mon souhait, c'est que nous puissions laisser le Saint-Esprit effectuer librement son travail sans l'empêcher. Donc, nous fermons cette petite parenthèse, ce bonus, et nous revenons à ma conclusion. Pour tout ce que vous avez entendu, un petit résumé. Tout d'abord, vivre selon l'esprit, c'est reconnaître notre incapacité de nous laisser conduire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin, parce que tout seul, nous n'y arrivons pas. Et c'est l'esprit de vie qui communique la vraie vie aux croyants. N'ayons pas cette illusion d'être vivant parce qu'on bouge. Sans le Saint-Esprit, nous sommes déjà morts. Enfin, ceux qui s'affectionnent aux choses de l'Esprit, il a la paix en toutes circonstances. Dans notre vie, il y a plein de problèmes, plein de difficultés, mais nous avons avec nous l'esprit de paix qui nous donne cette paix en toutes circonstances. Donc, par le même esprit dont Christ a été ressuscité, nous ressusciterons aussi corporellement. Nous sommes les heureux bénéficiaires de l'esprit d'adoption qui fait de nous des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et enfin, c'est l'Esprit lui-même qui authentifie et nous rappelle notre statut d'enfant de Dieu. Il n'y a que ça dont nous avons besoin pour avoir la certitude. Donc, si nous vivons toutes ces réalités dans notre vie, dans nos relations avec ceux du dehors, dans nos familles, avec nos amis, avec ceux qui cherchent la vérité, avec ceux qui sont dans le besoin d'écouter la bonne nouvelle. Si nous vivons ces réalités d'avoir notre compagnon, l'Esprit Saint, eh bien c'est ainsi que le royaume de Dieu va s'élargir à Yverdon et dans le monde entier. Et pour terminer, en guise de prière, je vous lis Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et merci de m'avoir écoutez.
Merci Raffaele. Maintenant, vous savez que quand on vous dit ça roule, la personne qui vous dit ça roule, hein, c'est un chrétien. Hein, à cause du pneu. Hein. Voilà, c'est un truc de chrétien, ça roule. Donc, si on vous dit ça roule, ça veut dire que vous êtes plein, vous êtes un pneu plein de Saint-Esprit, ok ? Bon, on va voir si ça devient notre truc à nous. Bon, je suis content que tu n'aies pas montré à Paris le boulevard Haussmann. Je me serais senti un peu visé. Non. J'aimerais inviter 6 personnes à me rejoindre pour servir la Sainte Cène. On va prendre le repas du Seigneur. Ensemble maintenant, je n'ai pas désigné des personnes, donc si vous vous sentez appelé, poussé par le Saint-Esprit à vous lever de votre chaise pour venir me rejoindre, c'est avec plaisir. 6, plus ou moins 6, voilà, plus ou moins 2, on va dire, entre 4 et 8. Alors, là, il faudrait encore quand même un petit peu de monde. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais aussi lire un texte encore avec vous. Et puis, le groupe de louanges peut aussi, après avoir pris la Sainte Cène, peut-être, vous pouvez me rejoindre pour prendre un chant. J'aimerais encore lire quelques versets dans 2 Corinthiens au chapitre 5, versets qui me parlait fort aujourd'hui encore, où Paul dit « L'amour du Christ nous presse, nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. » Hein, c'est un petit peu ce que Raphaël disait, sans l'esprit, on est mort. Donc oui, il est mort pour tous, donc tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. Ensuite, il dit, si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ, on connaît bien cette pensée d'être ambassadeur. C'est Dieu qui encourage par notre entremise, par nous-mêmes. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Pardon. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, donc Christ, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Alors c'est le message de la Sainte Cène que nous prenons pour nous aujourd'hui. Et puis, dans ce passage, il y a plusieurs buts. Hein. Il y a vraiment cette notion de vivre pour Christ. Donc c'est au travers de ce sacrifice que nous pouvons vivre à nouveau pour Christ. Sacrifice et résurrection, j'y tiens. Hein. Autrement, on est les chrétiens aromates, pour ceux qui étaient là la semaine passée. Hein. Donc il s'est réveillé, hein. Il est mort et il s'est réveillé pour nous. Nous sommes réconciliés en Christ avec Dieu. Pour réconcilier, il nous donne ce ministère de la réconciliation. Donc on a un rôle à jouer par notre entremise, par chacun d'entre nous. Alors que cet esprit de vie nous est donné, on peut réconcilier d'autres avec Dieu. Et si quelqu'un ce matin n'est pas encore réconcilié avec Dieu, si vous êtes en bataille avec Dieu, si vous dites mais je comprends pas, même je comprends pas la souffrance, je comprends pas pourquoi tu me fais passer par là, c'est l'occasion ce matin de vous laisser réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Et puis on sera là aussi à la fin pour vous écouter, pour prendre du temps avec vous, pour prier avec vous. Et puis ensuite, nous devenons justice de Dieu. Verset 21, le troisième but autour de ce passage, nous devenons justice de Dieu. Nous sommes justes au travers de Christ, devant Dieu, et nous pouvons être des témoins de cette justice ici dans le monde. Alors je vous invite à la prière avant de prendre ce repas et puis que tout ce qui a été dit aujourd'hui puisse être là dans nos cœurs. Père, merci pour le don de Jésus-Christ. Merci pour son corps, oui, crucifié à la croix. Merci pour ce pain qui représente ce corps ce matin. Merci pour ce vin qui représente cette nouvelle alliance. On s'en sent. Merci pour la réalité de nos fautes effacées. Christ, tu as été fait péché pour nous, pour que nous soyons justice de Dieu. Seigneur, merci de nous permettre par l'Esprit de vivre cette vie, pas selon nos propres désirs, mais pour toi. C'est notre cri, notre désir ce matin. Nous puissions être remplis de cet Esprit de vie, Esprit Saint, pour être celles et ceux que tu désires que nous soyons dans ce monde. Ouais, que nous ayons cette parole de réconciliation pour d'autres. Dans le nom de Jésus. Amen.
accueilli dans les parvis du roi. Je suis introduit dans ta présence. Je suis là sur le lieu de ta gloire. Pourtant, je m'avance avec révérence. Accueilli dans les parvis du roi, je suis introduit dans ta présence. Je suis là sur le lieu de ta grâce. Pourtant, je m'avance avec révérence. Et je tombe face à terre en présence de ta grâce. Et je tombe face à terre en présence. Ciel est comparable à toi, et qui sur la terre est ton égal. Tu es élevé bien au-dessus de tout. Je veux m'incliner pour t'exalter. Qui au ciel est comparable à toi, sur la terre et ton égal. Tu es élevé bien au-dessus de tout. Je veux m'incliner pour t'exalter. Et je tombe face à terre en présence. Sur le lieu de ta grâce, pourtant je m'avance avec révérence.
Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau. Alléluia.